Bienvenue sur Unlocked, le podcast présenté par Swissquote, qui explore les stratégies, les idées et les voies qui transforment l'économie. Aujourd'hui, on parle branding, créativité, intelligence artificielle, mais surtout vision. Et pour ça, on tend le micro à une voix clé de Swissquote, Yann De Schepper. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, chef ?
Très bien, merci.
Je dis chef parce que Yann est notre Chief Marketing Officer, mais aussi président de la SWA, ou ASA en français, donc la Swiss Advertising Association, ou l'Association Suisse des Annonceurs, et tout récemment diplômé de Harvard. Bah, félicitations. Hein.
Merci.
Yann, tu incarnes une nouvelle génération de leaders marketing, capables de marier stratégie, technologie et narration de marque au service d'une entreprise en mouvement comme la nôtre. Dans cet épisode, on va parler de confiance, de storytelling, de sponsoring, mais aussi d'IA, de sport et de comment une marque comme la nôtre peut rester pertinente dans un monde en constante mutation. Bienvenue Yann.
Merci, je me réjouis.
Ah bah, je me réjouis aussi. Et puis bah écoute, déjà pour introduire les gens à qui c'est Yann De Schepper, nous on te connaît parce que on travaille ici avec Swissquote, et peut-être que les gens ne sont pas au courant de ce que tu fais, alors peut-être te présenter un petit peu.
Oui, je peux, bien sûr. Donc je suis le Chief Sales and Marketing Officer de Swissquote. Ça fait 10 ans que je suis chez Swissquote. Donc dans ma fonction, je fais partie de la direction générale. Et je suis responsable pour le marketing, la vente, le product strategy et le customer care. Donc ça, c'est un peu tout, c'est un peu commercial qui touche au client. C'est un peu dans ma responsabilité.
Oui, et tu as plusieurs casquettes. Hein. Je veux dire, tu déjà au sein de Swissquote, CMO, président de SWA, donc l'association des annonceurs en Suisse. Et puis tout récemment, je disais, un MBA à Harvard.
C'est AMP. C'est un AMP, l'Advanced Management Program. En fait, c'est pour les C-level, donc tous ceux qui ont déjà 20 ans ou plus d'expérience professionnelle et qui sont dans la direction générale. Donc, c'est un programme spécial un peu pour les seniors comme moi.
Oh, ouais. Mais non, t'es pas si vieux.
Moi aussi.
Non, ouais. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose?
Ça m'a apporté beaucoup, parce que déjà c'est très global. Donc il y avait 166 participants du monde entier, mais vraiment de tous les continents. Donc c'était super enrichissant. De différents secteurs d'activité et aussi de différentes fonctions. Donc il y avait des CFO, des CMO, des Chief Legal Officer. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant au niveau de participants. Et c'était aussi très intéressant par la méthode Harvard avec les case studies. Et ça, j'ai beaucoup profité parce que ces case studies, en fait, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que d'abord, tu lis le case study toi-même. Tu as tes questions, tu fais ta réflexion. Et après, tu discutes le case study dans ton living group, les 8 personnes qui sont avec toi pendant tout le programme. Et à la fin, tu vas dans la grande classe et encore, tu discutes le case study avec le professeur qui décortique le case study. Est-ce que tu te rends compte que c'est que pour chaque situation, en fait, tu pourras avoir multiples points de vue? Et c'est ça qu'on oublie un peu, et surtout dans le marketing, c'est qu'il n'y a pas seulement une réponse qui est vraie. Il faut vraiment mettre dans la peau de différents interlocuteurs, de différents stakeholders, de consommateurs, de différents acteurs, et d'anticiper et de prendre la meilleure décision. Et pour ça, je pense que ce programme a beaucoup aidé.
Bah, je pense que ça a aussi aidé ton expérience. Je veux dire, quand tu arrives à l'école, normalement, tu n'as pas vraiment de l'expérience quand tu commences l'école là. Tu retournes à l'école avec un professeur, mais avec un bagage en marketing aussi. Toi, quand tu es arrivé là-bas, ou même dans ton travail en général, comment le rôle du marketing, il évolue selon toi?
Le rôle, il évolue beaucoup, comme tous les rôles, toutes les professions, ça évolue. Je pense qu'on voit un peu un retour au marketing, parce que le marketing, à la base, c'est de mettre le client au centre et les besoins du client. Donc ça, c'est le fondement du marketing. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, le marketing était un peu réduit à la communication, au packaging, au storytelling, mais ça peut perdu un peu d'importance. Mais maintenant, avec la situation qu'on a, avec la révolution digitale, la transformation, le marketing rentre à nouveau vraiment au cœur de la société, c'est ce qui est sa place, parce que le marketing, ça doit être un moteur de transformation, un moteur de croissance, et comme le digital, c'est ça qui amène la croissance, le e-commerce, de vraiment comprendre les besoins des clients, de tout traquer, et d'avoir des des nouvelles technologies pour innover. Ça permet au marketing de regagner sa place qui le mérite et qu'il doit avoir.
Et de pouvoir peut-être aussi avoir une voix avec toutes ces technologies et tout ça. Il faut savoir se démarquer.
Absolument.
Écoute, on va en parler un peu plus. Je voulais juste savoir, avant qu'on commence directement avec le sujet du marketing, mm-hmm. avec toutes tes casquettes, tu es aussi papa, j'ai entendu.
Oui.
Comment tu fais pour garder une vision claire avec toutes ces responsabilités
Je pense que ce qui est important, c'est de prendre le recul, d'avoir vraiment le big picture view, d'avoir un bon team, de clarifier les responsabilités, qui est responsable pour quoi, parce qu'on peut pas tout faire. Donc, j'essaie de limiter ma contribution personnelle au minimum. Donc, si j'organise l'environnement parfaitement et que chacun sait ce qu'il doit faire et qu'il est responsable pour son champ d'activité, une fois que la machine roule, ma implication personnelle peut être réduite, ce qui me permet de gagner de hauteur, de lire, d'avoir une réflexion et d'être inspirant et de donner des impulses au team et avec les personnes que je travaille.
Et peut-être d'avoir du temps pour des activités annexes, non ? Est-ce que tu as des choses à côté du travail ?
Des annexes, malheureusement, avec tout ce que je fais, c'est un peu moins de temps disponible, mais j'essaie d'avoir de la qualité, pas forcément de la quantité. Donc, ce qui est le plus important pour moi, c'est la famille. Donc, bien sûr, là, je trouve toujours du temps. Je veux aussi avoir du temps pour lire, je veux aussi avoir du temps pour nager ou de faire un peu de sport. Mais c'est pas énormément parce que c'est clair que si on a un métier comme le mien, c'est très prenant parce qu'on pense quand même constamment, presque plus ou moins, à des problématiques qu'on fait face.
Bah, parlons de problématiques, peut-être en commençant par le branding, la créativité et le storytelling. Ces trois sujets qui se réunissent aujourd'hui, tu parlais de savoir être réactif. Moi, je voulais savoir, quand tu as dit une fois dans une interview, l'incertitude affaiblit la confiance du marché. Comment, selon toi, les marques peuvent-elles répondre à l'instabilité actuelle par la créativité et l'intelligence émotionnelle ?
J'ai dit ça dans une interview, c'est vrai. C'était par rapport au marché financier. C'est que quand il y a trop d'incertitudes, après les investisseurs, ils sont un peu bloqués et ils n'agissent pas forcément. Donc, c'est dans ce contexte. Mais on peut le voir aussi dans le contexte un peu plus large. C'est que les marques sont là pour donner une orientation, pour donner une certaine rassurance. Et c'est pour ça, quand on a une marque qui a une cohérence sur la durée, c'est très rassurant. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. On doit savoir quelle est la raison d'être de la marque, de la société. Et il faut raconter ce récit constamment, toujours d'une façon fraîche, pour que ce soit avec une certaine surprise, que les gens écoutent à nouveau. Mais le récit de marque, de base, ça doit être toujours le même. Et c'est ça qui est rassurant. Et c'est pour ça qu'il y a, d'une côté, on a besoin de constance. D'autre côté, on a besoin de créativité pour que les personnes toujours écoutent à nouveau l'histoire de la marque.
Et puis je pense que c'est un peu les tendances qu'on voit aujourd'hui avec TikTok, les contenus réels, comme on dit, un peu qui parlent de vérité, qui vont... c'est l'extrême individualisme, j'ai l'impression, du marketing, c'est-à-dire qu'on va chez les gens, on va parler avec leurs habitudes et ce qui les fait résonner. Donc je pense que le storytelling, c'est aussi, selon moi, c'est parfois un mot à la mode, mais c'est surtout important pour avoir un leverage, un levier stratégique puissant. Et je pense qu'avec ton expérience, toi, t'es passé dans plusieurs marques. Tu as pu voir, en fait, avec les marques. Est-ce que tu vois un point commun avec toutes les casquettes que tu as eues durant ta vie en marketing? Est-ce que tu vois quand même un point commun de ces marques et du storytelling?
Bien sûr, je veux dire, les marques fortes, c'est les marques qui savent exactement qui sont. Comme une personne forte, c'est exactement quelle est la force de la personne, quel est son caractère, quelle est sa personnalité et quelles sont ses valeurs. Et c'est pareil pour une marque. Donc, pour qu'une marque soit authentique, il faut qu'elle se connaisse très très bien. Et il faut que elle évolue, bien sûr, il faut qu'elle s'adapte, mais à la fin, l'authenticité, elle est primordiale. Après, une marque, si on parle du bon storytelling, doit toujours créer des tensions pour que l'histoire, elle mérite d'être écoutée. Donc, il faut être créatif pour créer cette tension, il faut être cohérent, et à la fin, il faut être crédible et intéressant et inspirant. Donc, c'est un peu ça le secret d'une bonne marque.
Mmh. Et au-delà du branding et de l'inspiration, tu trouves pas que parfois le branding peut s'opposer en fait aux performances d'une entreprise?
C'est souvent ce qu'on essaye de dire, que soit on fait de la performance, soit on fait du branding, et qu'il y a un peu une tension. Et c'est vrai, il peut y avoir une tension entre les deux. Moi, ma vision, c'est que la marque, c'est fondamental. C'est vraiment le plus important. Ça veut dire que on a une promesse qu'on donne aux clients, et cette promesse, avec tout ce qu'on fait dans la communication, ça doit renforcer cette promesse. Ça ne doit jamais être à l'encontre. On peut faire du performance marketing parce qu'à la fin, on veut tout mesurer. Et même si on fait du branding, on doit avoir fixé des objectifs. Des objectifs différents, peut-être des objectifs un peu plus indirects, légèrement moins tangibles. Le performance marketing, des fois, c'est très rassurant pour les marketing, parce qu'on peut montrer au CFO, on peut dire, OK, j'ai investi ça, et ça, c'était directement le retour. Mais si on fait que ça, on détruit la marque, en fait. C'est jamais la bonne mesure. Des marques extraordinaires comme Rolex, ils font pas de performance marketing, et ils grandissent à une vitesse spectaculaire, et ils sont très forts, donc, mais ça, c'est aussi un peu une exception, parce qu'ils sont pas listés en bourse, c'est une fondation qui est le propriétaire, donc malheureusement, ça c'est pas non plus possible pour toutes les sociétés, donc nous, on a besoin aussi de faire du performance marketing, mais je veux jamais voir du performance marketing qui est purement à court terme et qui nuise à l'encontre de la fondation de la marque. Donc c'est comme un mosaïque, donc si on communique, faut vraiment qu'à la fin, ça donne un joli tableau, et chaque pièce de communication doit renforcer le tableau global.
Et tu avais récemment dit que la publicité, ou alors les dépenses publicitaires, c'était souvent un reflet de la confiance économique d'une entreprise. Qu'est-ce que tu nous dis en regardant les budgets marketing pour 2025 ?
Pour 2025, ça a l'air plus ou moins stable dans l'ensemble de la Suisse, au moins de ce que je vois. Et ça dépend effectivement de la croissance et aussi de la vision qu'on a dans l'avenir. Et si les sociétés le sont moins, donc ils disent OK, il va y avoir moins de demandes, donc il faut optimiser les coûts. Donc comment on optimise les coûts? Ben, il y a différentes façons d'optimiser les coûts, mais d'optimiser les coûts au marketing, c'est presque le plus facile, parce qu'on peut dire, OK, on frise un peu le budget, on réduit le budget, c'est plus facile que de virer des personnes. Donc, on est d'accord. Donc, c'est pour ça, malheureusement, le marketing, souvent, est peu dépendant aussi un peu de l'activité économique. Après, des bonnes sociétés qui ont les moyens et qui pensent vraiment à long terme. Souvent, quand il y a une crise ou il y a une décroissance, quand tout le monde arrête d'investir et ces sociétés, ils ont les moyens et ils ont la vision d'investir, c'est là aussi que souvent, c'est l'opportunité de gagner des parts de marché plus rapidement que quand dans une phase où tout le monde investit à fond.
Mmh. Ce qui m'intéresse aussi, je pense qu'on a rarement l'occasion de parler à quelqu'un qui a eu ce parcours comme le tien en marketing. Souvent on le voit visuellement, le marketing, mais on voit pas les gens derrière, et moi j'ai envie de te poser des questions sur ton parcours. Et tu parlais de grandes marques comme Rolex. Est-ce que tu peux nous parler un peu de McDonald's, parce que je pense que ça fait partie de ton parcours. Tu as dirigé le marketing de McDonald's Suisse, cette marque qui est quand même depuis toujours une référence mondiale en publicité. Et les investissements publicitaires globaux de McDonald's sont passés de plus de 900 millions de dollars en 2014 à moins de 400 millions en 2023, selon Statista. Est-ce que de manière plus globale, ça traduit un changement de priorité, ou tu vois une évolution de ce qui se passe?
J'ai pas suivi comment McDo gère maintenant les dépenses publicitaires. Pendant que j'étais là, c'était très clair pour la Suisse, c'était lié au chiffre d'affaires, et c'était 4,5% du chiffre d'affaires qui était investi dans la communication marketing. Et comme en fait le le chiffre d'affaires, il a augmenté d'année en année. Après, les investissements marketing aussi, ils ont augmenté linéairement avec le chiffre d'affaires. Et on a voulu avoir ça parce que c'était important pour la marque d'être always on, d'être toujours, en fait, de communiquer tout le temps, d'introduire les nouveaux sandwichs, les promotions, renforcer la marque, faire toutes les activités pour les familles et les différentes dents cibles. Donc, pour moi, c'était très, très bien comme job. J'ai beaucoup aimé, mais ouais, donc. Maintenant aussi, c'est très bien.
T'avais des Happy Meal gratuits quand tu travaillais là-bas?
J'avais 50% sur toute la gamme, donc avec ma carte, donc j'en ai profité. Je mangeais peut-être un peu trop, mais ouais, c'était bien.
Bon, écoute, si tu as la carte à vie, peut-être qu'on peut aller manger.
Je ne l'ai pas à vie. Non,
c'est dommage. Écoute, on est en été, là. On va parler un peu de soleil. Alors, on n'a pas forcément envie de parler de Côte d'Azur parce qu'on a ce beau lac Léman à côté. Mais tu as eu un lien avec Cannes cette année et j'ai envie d'en parler. Tu t'es mis au cinéma ou c'est quoi cette histoire de Cannes Lions? Dis-nous un peu plus.
Oui, en fait, les Cannes Lions, c'est le festival de la créativité. Donc, c'est le festival de créativité le plus important au monde. C'est vraiment un peu comme la Coupe du Monde de la publicité et du marketing. J'avais la chance d'être 3 fois déjà au Cannes Lions. C'est vraiment spectaculaire. C'est toute une semaine. Il y a des présentations, il y a des conférences, il y a des panels. Et surtout, on peut voir, en fait, les meilleures publicités du monde entier. Donc, dans différentes catégories, digitales, télé, affichage, RP. Et c'est très stimulant parce que on y va, on regarde ce que font les autres, ça crée la motivation. On dit, OK, bah, écoute, on doit aussi réussir, avoir des travaux qui peuvent gagner un prix. On veut jouer vraiment au top global. Et ça, c'est un peu mon ambition. Qu'on a un marketing qui est vraiment, qui fait partie du meilleur. Et je pense qu'on peut arriver. La Suisse, il y a de la créativité. Mais il faut se donner les moyens, il faut avoir le courage, mais il faut le vouloir. Et c'est pour ça que je suis toujours ce qui se passe.
Et il y a une campagne qui t'a particulièrement intrigué ou marqué cette année quand tu étais là-bas?
Il y a beaucoup de campagnes qui m'ont marqué. Donc, j'étais pas cette année, mais je regardais quand même parce que sur YouTube, si on cherche un peu, on voit un peu les travaux qui ont gagné. Donc, par exemple, il y a un discounter Penny et ils ont créé, en fait, comme il y a l'inflation et comme les gens se plaignent de l'inflation, ils disent, ouais, mais les prix, ça augmente. Ils voulaient prouver, en fait, que chez eux, les prix sont stables et que ça augmente pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une nouvelle gamme de produits où, en fait, il y a le prix qui est très grand. Donc, la gamme, c'est une gamme prix comme prix garanti, mais c'est le branding, en fait, c'est le prix. Donc, c'est 1,79, par exemple, sur les paquets de chips. C'est comme ça, les gens, ils peuvent comprendre, OK, c'est 1,79. Ils sont tellement confiants que leur prix est bas et que leur prix va durer qu'ils l'ont directement mis sur le package. Et après, ils ont fait toute une campagne 360 par rapport à ça. Et ça, je trouvais, c'est une idée brillante.
Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y avait des campagnes avec, produites avec l'intelligence artificielle? On a vu, il y a peut-être 2 semaines, alors pour les gens qui vont écouter, on est en juin. Est-ce que vous aviez des campagnes faites avec de l'IA ou des choses un peu différentes que tu n'aurais pas vues des années précédentes?
Ça, je n'ai pas remarqué, mais c'est clair. L'IA, en fait, c'est comme un outil comme les autres et que ça va prendre son chemin dans la publicité. C'est inévitable. Et ça donne des nouvelles possibilités. Donc, encore plus de possibilités d'être créatif, d'être encore plus rapide. Mais à la fin, c'est comme... ça augmente la personne, ça augmente les gens qui sont en charge de la publicité. Tout le monde peut devenir presque un directeur artistique. Après, est-ce que tout le monde est un directeur artistique? Non, c'est quand même un métier, on a quand même besoin de l'expérience, mais c'est clair, ça ouvre complètement des nouvelles perspectives. J'en ai vu quelques spots qui sont déjà corrects, d'une bonne qualité, qui étaient produits, bon marché, et rapide, mais à la fin, faut quand même si c'est produit de l'IA, il faut qu'on regarde que ça correspond à la cible, à la problématique, qu'il y a une idée derrière qui est vraiment marquante. Donc, moi, je vois ça comme un outil super puissant de plus.
Je disais ça parce qu'il y avait récemment eu un petit buzz, il y a 2 semaines peut-être, avec une entreprise qui avait vraiment fait une publicité juste avec en utilisant les, je sais plus quel outil de Google. Et ça avait fait le plus d'audience ou le plus de réactions, en fait, contrairement à Pepsi, qui était, c'était durant une finale sportive, je crois. Et ils avaient fait plus de bruit, okay. avec beaucoup, beaucoup moins de budget aussi. Ouais. Et ça a été un peu partout dans les médias récemment. Moi, c'était pour savoir, en fait, si on voyait ça de plus en plus ou pas. Mm. C'est aussi une manière de réduire les coûts, j'ai l'impression.
Ouais, il faut dire que c'est... Il y a énormément de bruit. Et avec l'IA, il y a encore plus de bruit. Et il y a beaucoup de marques qui juste harcèlent les consommateurs, qui sont échangeables et que c'est de mauvaise qualité qui produit. Je dirais presque plus de 90%, c'est juste médiocre, malheureusement. Et c'est aussi ça qui crée la fatigue avec le consommateur. Et c'est pour ça, c'est de plus en plus important de réfléchir et de venir avec des idées qui peuvent justement faire la différence et après d'être cohérent, cohérent sur le thème. Et si on est cohérent, si on est créatif, on peut arriver à des résultats avec un budget qui est beaucoup inférieur qu'une grande marque qui a un grand budget mais qui fait un travail moyen.
Et l'IA dans la finance, vu que c'est notre secteur à nous, je pense que tu as raison, il y a des limites dans l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'il y a une valeur dans la finance aujourd'hui de l'IA. Est-ce qu'il faut rester prudent ou faut quand même rester lucide, surtout dans notre secteur ?
Dans notre secteur, il faut embrasser l'IA, et ça c'est sûr. Surtout que nous, on est une société technologique avec une licence bancaire. Donc ça, c'est notre avantage. Après, notre raison d'être, c'est en fait que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On questionne les codes et on amène du empowerment. Donc on veut vraiment renforcer le client pour qu'il puisse être autonome sur le marché financier, pour gérer son argent le mieux possible. Donc si on peut donner des outils à nos clients pour qu'ils puissent être encore plus autonomes, qu'ils puissent avoir encore une meilleure compréhension du marché, qu'ils puissent encore mettre des meilleures décisions pour dépenser, pour investir, pour épargner, on a tout à gagner. C'est une très grande priorité pour nous d'amener l'IA pour renforcer le client. Pour qu'il puisse être plus autonome. C'est vraiment comme un copilote, un assistant, un coach. Donc, on va dans cette direction, on met énormément de moyens, et c'est ça qui va mettre Swissquote à part des autres, si on le fait bien.
Mais Swissquote intègre déjà, et de plus en plus, l'IA, comme tu dis, sur la plateforme. Quels sont les cas d'usage vraiment prometteurs au sein de notre entreprise ? Et personnellement, est-ce que tu traces la ligne en matière de confiance, de risque aussi, parce qu'on parle d'IA, mais il y a aussi des risques avec et d'expérience client. Qu'est-ce que tu dis de tout ça?
Moi, je pense que l'IA, c'est inévitable. Toutes les sociétés doivent introduire d'une manière ou une autre. Ce que j'observe, c'est que les sociétés qui l'introduisent, les banques, c'est principalement pour chercher de l'efficacité. Ça veut dire qu'il a les process du back office, de compliance et d'autres. Et ils disent, OK, avec l'IA, on peut les rendre plus efficaces, moins chers, on va optimiser. Et c'est important de le faire. Et nous aussi, on va le faire. Mais j'entends, quand je discute avec mes collègues d'autres banques, je vois peu qui disent, OK, on va utiliser l'IA pour créer des nouvelles offres, des nouvelles services, de distinguer la banque par rapport aux autres banques. Et je pense que c'est là le grand potentiel. Donc si on arrive vraiment à implémenter l'IA, mais le donner à disposition du client pour qu'il puisse faire mieux, qu'on a des nouvelles combinaisons d'offres, des nouvelles user experiences, donc c'est là qu'on va faire une grande différence.
Tu parles de visibilité, peut-être qu'on pourrait parler du fait que Swissquote s'est devenu un acteur visible dans le sponsoring sportif. C'est aussi quelque chose que je voulais mentionner aujourd'hui avec toi. Pourquoi ces événements, ils sont stratégiques pour nous? Donc, quand je parle d'événements, je parle surtout de Women Euro en ce moment, qui est vraiment... on est en plein dedans. Ces événements, ils sont stratégiques.
En fait, le sponsoring... C'est un outil, un vecteur qu'on a. Ce qui est important, c'est de définir l'objectif. Quel est l'objectif de la société? Quel est l'objectif marketing? On est basé sur l'objectif. On peut décider Est-ce que le sponsoring, c'est le bon moyen d'atteindre à cet objectif? Ou est-ce qu'on utilise plutôt le média? Ou est-ce qu'on va... Donc il y a différentes possibilités toujours. Là, dans ce cas de Women Euro, l'objectif, c'était qu'on s'est dit, Swissquote, c'est bien, on a du succès, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut atteindre plus de personnes. Donc, on veut vraiment grandir, on veut gagner aussi en taille. Et ce qu'on a vu dans notre base client, c'est que moins de 20% de nos clients sont des femmes. Je trouve ça personnellement très dommage parce que je trouve, si notre raison d'être, c'est l'empowerment, c'est aussi important quand les femmes aussi prennent ça, cet empowerment, et qu'ils puissent profiter de nos développements et notre vocation. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on se dit, OK, on veut ouvrir la marque, on veut se battre pour expliquer que investir, trading, l'argent, d'avoir cette vocation d'autonomie, c'est là pour tout le monde. Et bien sûr, avec le Women Euro, c'est un bon vecteur pour passer ce message. Donc c'est pour ça aussi qu'on se dit, OK, c'est d'un côté, c'est bien pour la visibilité, mais ça va beaucoup au-delà de la visibilité. C'est vraiment un peu une preuve de dire, OK, on investit dans le Women's Sport, pour montrer aussi, on prend ça au sérieux, qu'on est là aussi pour les femmes, pour tout type d'investisseurs, et que c'était un peu ça la réflexion derrière.
Et aussi pour changer les codes, comme tu disais, je pense que les codes, la finance, c'est quand même un milieu très masculin de base, et quand on regarde le milieu en général, on se dit pourquoi on n'a jamais fait ça, en fait. Et c'est vrai que là, on change vraiment les codes. Donc, il y a un réel impact de l'image avec les environnements et l'émotion qu'on fait avec ce sponsoring. Est-ce que tu penses que les marques doivent aujourd'hui prendre position sur des sujets de société, un peu comme on le fait maintenant?
Ça, c'est une bonne question. Je pense pas qu'il y a, comme tout, une réponse unique. Je pense que ça dépend de la marque, ça dépend de la DNA de la société, la raison d'être de la marque. Il faut savoir sur quel sujet on veut être fort, être entendu, et quels sont les sujets qui sont annexes ou qui sont trop loin. Donc, pour nous, on est là pour l'empowerment de nos clients. Donc, on a certaines valeurs. Si ça touche à nos valeurs, notre raison d'être, on peut prendre position. Si ça va trop loin, on n'a rien à gagner de prendre position.
Mmh. Et nous, on a cette brand campaign là qui est actuelle. Maintenant, tu peux nous en parler un petit peu plus, comment on l'a développée? Alors, on l'a tournée autour du Women Euro, mais comment ça s'est passé, la création de cette campagne?
La brand campaign, c'était effectivement ça, ce qu'on dit. La marque, elle évolue. Le empowerment, c'est au centre. Maintenant, on veut faire une campagne qui montre que le empowerment, on le voit dans un sens plus large. On le voit pas seulement pour le trading à court terme. On le voit aussi pour l'investissement, pour faire de l'épargne, pour gérer ses finances, ses dépenses, et qu'on veut adresser tout type d'investisseurs, de personnes, et pas seulement les hommes. Et c'est pour ça, c'était une campagne qui a vocation d'être encore un peu plus inclusive, parce qu'à la fin, si on veut grandir, il faut aussi un peu élargir sa cible. Et ça, c'était un peu l'idée derrière cette campagne.
Et parlons peut-être un peu de leadership et de vision pour Swissquote pour plus tard. En tant que président du SWA, comme on disait, l'Association Suisse des Annonceurs, tu incarnes aussi une voix de l'industrie. Quelle responsabilité implique ce rôle, surtout dans un contexte de régulation croissante et de remise en question de la publicité? Tu as beaucoup de responsabilités déjà, tu en as encore plus maintenant.
Oui, oui. Ouais. On m'a demandé de prendre ce rôle. Après, j'ai réfléchi un peu, j'en ai discuté avec notre CEO, s'il trouve que c'est une bonne idée si je prends cette responsabilité supérieure, en plus, additionnelle, parce que c'est additionnel, ça prend un peu de temps. Et après, je me dis, bon, je vais le faire parce que ça m'intéresse personnellement. Je pense que c'est important pour la Suisse. Je pense que Swissquote peut en bénéficier aussi si j'incarne ce rôle. Donc, à quoi ça consiste? C'est qu'en Suisse, on a plus de 6 milliards de dépenses publicitaires par an. Et la publicité, la communication commerciale, c'est vraiment super important pour la croissance de la Suisse, pour son dynamisme. C'est quelque chose qu'on doit défendre. Donc, dans cette association, il y a toutes les grandes annonceurs de Suisse qui sont groupés. Donc, ensemble, on a plus de 80% des dépenses publicitaires qui sont réunies. Donc, on a une voix forte. Et cette voix forte, je veux la porter. Je veux la porter avec les partenaires, donc avec les agences, mais aussi par rapport aux médias, par rapport aux politiques, par rapport à la société en large, pour que les gens se rendent compte que c'est important pour notre démocratie, pour notre croissance, que le marketing, la publicité joue un rôle important dans notre société.
Et comment on devient président de cette association, ou comment on devient Chief Marketing Officer? C'est quoi ton parcours?
Ça, je pense pas qu'il y a un secret. Je pense que pour moi, c'était en fait, j'ai eu un parcours, j'étais ambitieux. Je pense que ça il faut. Il faut être ambitieux, il faut être curieux. Après, il faut faire un bon travail. Il faut être, je pense, apprécié. Donc ça aussi, c'est important. Donc j'essaie toujours, quand je fais du business, ma philosophie, c'est que, en fait, c'est de construire des relations à long terme, d'essayer d'amener de la valeur. Si on amène de la valeur et si on a cet esprit à long terme, à la fin, des fois on aide, des fois c'est donnant. Et si on a cette philosophie, je pense que c'est comme ça on peut construire une carrière à long terme. Mais à la fin, c'est comme tout, comme une marque, ça passe par la crédibilité. Donc il faut chaque jour, en fait, il faut se prouver à nouveau, il faut amener des idées, il faut délivrer des résultats. Et si on fait ça sur le long terme, et si on travaille bien avec du respect avec les personnes, c'est à la fin, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, et comme ça on peut faire une carrière.
Mmh. Et tu as peut-être un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le marketing? Moi, je sais que je te pose la question parce que moi, j'avais cette ambition de faire du marketing ou de travailler dans un milieu marketing. On voyait souvent des films où on se disait, tiens, c'est intéressant d'aller dans les pièces d'entreprise et faire des publicités. Mmh. C'est quoi le parcours type pour faire ça? Parce que moi, j'étais un peu perdu. Je trouvais que c'était pas forcément facile de trouver sa voie en marketing, ici en Suisse en tout cas.
C'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que le marketing, c'est un peu une passion métier. Donc c'est toujours difficile quand c'est un métier que les gens pensent que c'est sympathique, c'est beaucoup de fun, donc il y a beaucoup de demandes, et l'offre est limitée. Donc la compétition dans le marketing, elle est plus grande que dans d'autres secteurs où on a besoin des spécialistes, mais il y a peu de demandes. Donc c'est pour ça, pour réussir dans le marketing, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué que de réussir dans l'audit ou dans d'autres activités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense...
Être un peu touche-à-tout.
Un peu touche-à-tout, ça peut aider. Ça peut aider. Et après, je pense que c'est de bien commencer la carrière. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir peut-être un profil un peu atypique. Donc, j'ai travaillé chez Carlsberg, après j'étais chez Bacardi, après j'ai travaillé en agence. Et cette expérience d'agence, ça m'a beaucoup aidé. Après, je suis allé chez McDo, maintenant je suis dans la finance. Et si on a un peu un parcours, un profil qui sort un peu de l'ordinaire, je pense qu'on a toujours un avantage. Donc, il faut faire attention de pas suivre, comme tout le monde, le même chemin, parce que sinon, ça peut être compliqué, mais au contraire, il faut essayer de créer son propre profil qui est un peu différent. Comme une marque, il doit toujours être différent des autres marques, parce que sinon, il n'y a pas de raison de choisir cette marque. Donc, c'est important de garder une certaine différence, de cultiver la différence, de la renforcer. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut avoir du succès. Et après, il faut vraiment faire attention les associations qu'on fait. Donc moi, j'ai fait toujours attention de jamais travailler pour une marque qui a des mauvaises associations ou qui ne va pas bien ou qui n'est pas propre. Donc je pense que ça c'est important. Après, c'est le coaching. Donc plus important encore que ça, c'est que de travailler, surtout quand on est jeune, pour un chef, une organisation avec du bon talent. Donc ça c'est primordial.
Peut-être pour finir sur Swissquote et la vision de Swissquote, si tu devais définir ce que serait une réussite pour Swissquote dans les 5 prochaines années, à quoi cela ressemblerait-il?
Swissquote, c'est une société de croissance. Il faut absolument qu'on reste une société de croissance. Donc comment on va arriver à ça? Donc il y a plusieurs axes. Je pense que le plus important, c'est que notre mission, il faut la vivre, il faut la rafraîchir. Mais si on arrive vraiment de démocratiser encore plus l'accès à la formation, aux finances, que plus de gens encore sont autonomes, sont confiants et qu'ils puissent faire plus de leur argent et de aussi atteindre leur potentiel. Donc si on fait tout ça juste, je pense que le succès économique, il va presque arriver automatique. Donc il faut pas être trop focalisé sur le bénéfice, mais il faut être focalisé sur sa mission de faire un bon travail, d'innover, toujours avoir le client en première lieu. Et si on a cette pensée, on va avoir du succès. Personnellement, ce que je pense que c'est en ce moment, on est dans une phase de bousculement à cause de l'AI, à cause d'autres technologies, et que dans chaque marché, il y a des concentrations qui se font. C'est la règle du capitalisme. C'est qu'à la fin, c'est le plus fort et le plus agile qui va avoir du succès. Et je pense dans les banques, c'est la même chose. Donc en Suisse, on est une place bancaire de longue date. Mais c'est pas tenable qu'il y a autant de banques qui vont survivre en Suisse. Même globalement. Parce que il va avoir une concentration. Je pense que à 5-10 ans, il y aura quelques banques européennes, quelques banques chinoises, quelques banques américaines, mais qui vont être dominants, forts. Et il y aura aussi 1, 2, maximum 3 banques suisses qui vont être capables de jouer sur le même niveau qu'une banque chinoise, américaine, européenne. Et si on pense à cette réflexion, c'est clair que Swissquote doit être cette banque, ou dans les 3 banques qui peuvent vraiment avoir cette place. Et je suis sûr qu'on le sera, et parce qu'on a le bon positionnement, on a les bonnes stratégies pour y arriver. Et avec ça, the sky is the limit. Donc je suis très, très optimiste par rapport à Swissquote.
Bah tu m'as intrigué là, du coup, à l'international, on voit de la compétition, du coup, c'est ça que tu dis, en termes financiers. C'est quoi l'enjeu majeur pour ce futur dont tu parles, où il faut être dans les top 3? C'est quoi les clés que la banque doit avoir?
Bah, c'est...
À part les clés du coffre.
Les clés. Là, je veux dire, la banque, c'est un métier technologique de plus en plus. Donc c'est vraiment, c'est qui a les meilleures plateformes, qui a les meilleures apps, qui a le meilleur usage de l'intelligence artificielle, et qui, la banque aussi, c'est une question de confiance, qui a la meilleure marque. Une marque que tu dis, ok, je fais confiance, mon salaire, ça va là-dessus, je vais investir dans cette banque. Et c'est cette confiance, cette agilité technologique que pas toutes les banques auraient. Et les acteurs traditionnels, ils ont peut-être un petit désavantage parce qu'ils sont sur des investissements et des structures traditionnelles avec pas la même agilité qu'une Swissquote. Donc, et si on continue avec le développement qu'on fait, si on rend la marque plus relevant pour plus de personnes, avec une offre qui est vraiment plus ou moins 360, où tu peux faire des paiements, tu peux faire de l'épargne, tu peux faire des investissements, tu peux prendre un crédit, et tout ça d'une façon simple, que tout le monde comprenne, que la décision, ça reste chez la personne. C'est comme, à l'heure actuelle, tout le monde fait ses propres vacances, elle organise ses vacances, tout le monde prend soin, pas tout le monde, mais de plus en plus de gens prend soin de leur bien-être physique, mental et leur bien-être financier. C'est quelque chose que les gens doivent prendre en charge eux-mêmes. Il ne faut pas déléguer ça à un banquier ou un tiers. Et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte qu'il faut le faire soi-même, qu'ils ont tout à gagner de le faire soi-même, et qu'on donne les outils pour qu'ils puissent le faire soi-même. Donc si on fait notre raison d'être, si on fait ça bien, avec cohérence, avec la confiance, donc là, je pense qu'on est vraiment sur un boulevard sur les prochaines années. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas des difficultés, parce que les difficultés, on ne peut pas les anticiper, des fois ils vont arriver, on aurait des challenges, mais on va adresser les challenges, ça c'est, je suis sûr, mais en globalité, je suis optimiste que Swissquote va être un acteur encore plus fort dans l'avenir.
Et tout va tourner autour de l'individu, comme tu dis, et l'individualisation de la finance, comme on peut le voir dans d'autres secteurs d'ailleurs. Je veux dire, aujourd'hui, on peut faire plein de choses, commander nous-mêmes des choses sur Internet, etc. C'est un peu la même chose qui se passe en finance.
Exactement. Ouais.
Écoute, Yann, merci beaucoup. Je pense que c'était déjà super inspirant, intéressant de parler avec quelqu'un qui a de la bouteille, qui a beaucoup d'expérience.
Est vieux, c'est ça que tu veux dire.
Non, je parlais plus... la sagesse, ça vient aussi avec l'expérience. Je pense pas que... je te traite de vieux non plus, je dis juste que tu as beaucoup de choses à partager, et merci beaucoup pour ça, et aussi merci de nous ouvrir un peu les portes et les secrets du marketing chez Swissquote, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, on parle d'individualisation, nous en marketing on essaye un peu de vous montrer ce qu'il y a derrière aussi. C'est une manière de participer à ce mouvement. Donc, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Unlocked, présenté par Swissquote. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à découvrir notre chaîne YouTube pour encore plus de contenu et peut-être encore plus de contenu avec toi, Yann.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. À bientôt.
Le contenu de cette vidéo, y compris les commentaires, données et observations sur le marché, n'est pas le produit d'un service de recherche de Swissquote ou de ses filiales. Ce document a pour but de mettre en avant l'action du marché et ne constitue pas un conseil d'investissement juridique ou fiscal. Swissquote ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la qualité, l'exhaustivité, l'exactitude ou la non-violation de ce contenu. Les points de vue exprimés sont ceux du consultant et ne sont fournis qu'à des fins éducatives. Toute information fournie concernant un produit ou un marché tiré ne doit pas être interprétée comme une recommandation de stratégie d'investissement ou de transaction. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Swissquote, son personnel et ses représentants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte découlant directement ou indirectement de décisions prises sur la base du contenu de la vidéo. L'utilisation de marques ou de marques déposées de tiers est uniquement à titre d'information et n'implique pas l'approbation de Swissquote, ni que le titulaire de la marque déposée ait autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque de commercialisation des activités de Swissquote Bank SA, Suisse, réglementée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited, réglementée par la CISEC, Chypre, Swissquote Bank Europe SA, Luxembourg, réglementée par la CSSF. Swissquote Bank SA, Royaume-Uni, réglementé par la FCA, Swissquote Financial Services, Malte. L'UTD réglementé par la Malta Financial Services Authority, Swissquote MELUTD, IEU, réglementé par la Dubai Financial Services Authority. Swissquote PTLIDD, Singapore, réglementé par la Monetary Authority of Singapore. Swissquote Asia Limited, Hong Kong, autorisé par la Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC. Les produits et services de Swissquote sont réservés aux personnes autorisées à les recevoir en vertu de la législation locale. Tous les investissements comportent un certain degré de risque. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients particuliers subissent des pertes de capitaux lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les actifs numériques ne sont pas réglementés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement spéculatif très volatile, les actifs numériques ne conviennent pas aux investisseurs n'ayant pas une tolérance au risque élevée. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant toute transaction.